Ça va? Ouais. Bon. Vous êtes courageux, il fait un peu chaud sous la tente, mais le rendez-vous vaut vraiment la peine. On va parler d'enfance. On va parler d'enfance grâce à une collection qui s'appelle L'Atelier de l'enfance, qui est publiée chez Bayard. Il y a deux volumes qui ont été édités jusqu'à maintenant. C'est la journaliste Catherine Lalanne qui a eu cette très bonne idée d'interviewer des écrivains sur leur enfance, pour savoir notamment en quoi cette enfance est constitutive de leur vocation d'écrivain. Le premier qui a répondu aux questions de Catherine Lalanne, c'est Éric Emmanuel Schmitt. On accueille et qu'on applaudit. Le deuxième qui a bien voulu jouer le jeu et se dévoiler plus qu'un petit peu, c'est Yasmina Kadra. Oui, là, voilà. J'ai envie pour commencer de vous demander à tous les deux. Vous avez chacun un micro, donc vous prenez votre cornet de glace sans problème. Je vous connais un tout petit peu tous les deux. Je vous sais pudique, je vous sais réservé. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, quand Catherine Lalanne vient vous voir en disant « J'aimerais faire un livre d'entretien avec vous sur l'enfance », vous dites « Oui », Éric Emmanuel Schmitt.
Ben d'abord, c'est une femme qui me le demande. C'est plus facile d'aller dans des zones intimes avec une femme parce que on sait qu'on va être opéré avec délicatesse, voilà. Et il se trouve qu'en plus Catherine Lalanne, avec le temps, était devenue, c'est une journaliste, et avec le temps, c'était devenu une amie.
C'est possible de mettre ces deux mots ensemble ?
Ben, tu le sais bien, Pascal.
Oh, il est trop gentil. Voilà.
Ça m'arrive rarement, effectivement, d'avoir des relations avec des journalistes, mais ça m'arrive parfois. Et voilà, il y a une relation qui s'était créée avec Catherine. On a même fait des voyages ensemble. Et un jour, elle m'a amené cette idée de l'atelier de l'enfance, en disant voilà, je voudrais voir comment des personnalités se sont forgées ou pas, enfin se sont forgées dans l'atelier de l'enfance, soit par opposition ou avec une enfance, soit par frustration éprouvée pendant l'enfance, soit parce qu'il y a simplement une continuité de l'enfance à l'âge adulte. Et je crois que Yasmina Kadra et moi, justement, on offre deux profils très différents par rapport à ça. Donc voilà, je n'avais jamais fait de livre d'entretien, je ne voulais pas en faire, mais je l'ai fait. Et donc on a fait ce livre qui s'appelle « Plus tard, je serai un enfant ».
Voilà. Celui de Yasmina Kadra s'appelle « Le baiser et la morsure ». Yasmina Kadra, vous êtes, vous aussi, comme je disais, quelqu'un d'assez réservé. Je trouve qu'en lisant ce livre d'entretien, on apprend énormément de choses sur vous. On comprend beaucoup mieux votre trajectoire, pourquoi vous écrivez, comment vous écrivez. Même question que pour Éric Emmanuel tout à l'heure. Pourquoi avoir dit oui à Catherine Lalanne? Elle est magique, cette fille.
Parce que c'est une femme.
Je demande des droits d'auteur.
Non, j'ai beaucoup hésité parce que je n'aime pas parler de moi. J'avais déjà consacré à ma petite enfance un roman, un livre qui s'intitule « L'écrivain ». Et puis, c'est une dame que je respecte beaucoup. Elle est l'une des rares personnes qui me soutiennent véritablement. Et je me suis dit pourquoi pas finalement. Je suis quelqu'un qui a été souvent calomnié, diffamé, chosifié, défiguré. Je me suis dit que c'est peut-être l'occasion pour moi de dire à ceux qui apprécient mon travail quelle personne je suis. Voilà, et je me suis donné à fond, j'ai été dans la sincérité la plus absolue. Voilà, et j'espère que les gens vont me comprendre un peu plus.
Éric Emmanuel Schmitt, vous dites très joliment dans la préface de ce livre d'entretien, je n'ai pas eu la même enfance toute ma vie.
Non.
Vous changez d'enfance toutes les décennies pratiquement.
À peu près, oui. Mais comme tout le monde. Parce que l'enfance, c'est toujours un récit qu'on fait une fois qu'on a quitté ce territoire. On a tous passé la frontière. Et donc, quand on parle de son enfance, on parle de son enfance vue de tel âge ou tel âge. Mon enfance, je ne l'aurais pas racontée à 20 ans, comme je l'aurais racontée à 30, à 40, à 50. Donc, dans ce livre, je vous raconte mon enfance à la cinquantaine. C'est-à-dire que je crois que le passé s'observe toujours d'une fenêtre qu'on découpe dans le mur du présent. Et moi, mon présent, c'est la cinquantaine, donc je regarde mon enfance comme ça. C'est-à-dire, je pense que je vous aurais raconté une enfance moins apaisée si je ne la racontais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ressens avantage de la maturité, un apaisement, et je vais sans doute chercher les racines de mon apaisement aussi dans des éléments de mon enfance, comme si finalement ça avait enfin germé. Mais j'aurais peut-être raconté quelque chose de plus contrasté à 30 ans. Et à 20 ans, je ne sais même pas si j'aurais pu raconter mon enfance. Je crois que je l'avais oublié. Donc oui, on a tous plusieurs enfances.
Oui.
On devrait tous faire cet exercice tout au long de sa vie, tous les 10 ans, réécrire son enfance.
Yasmina Kadra, vous partagez, parce que vous dites très clairement, c'est une des phrases qui je trouve est très forte, très dure dans ce livre d'entretien, vous dites très clairement que votre enfance est arrêtée au moment précis où vous avez franchi le portail de la caserne, vous aviez 9 ans.
C'est vrai, parce que quand on a poussé cette porte, on est entré quelque part où... dans le monde des adultes, et j'étais obligé de vivre comme un adulte. À l'âge de 9 ans, je pouvais aller en prison. Je pouvais être puni. On se levait à 5 heures du matin à coups de pied dans le derrière, à coups de hurlements. Et donc, je ne me souviens pas d'avoir été un enfant. Ce n'est que maintenant que je suis en train de le redevenir.
Ouais. Mais vous êtes d'accord avec Emmanuel Schmitt, votre enfance, même si elle a été extrêmement dure et qu'elle s'est terminée très tôt, vous l'avez vue de manière différente à 30 ans, à 40 ans, aujourd'hui?
Non, je la vois toujours de la même manière parce que c'est un moment de grisaille, d'isolement, de beaucoup de courage aussi parce qu'il fallait vivre dans un milieu qui était aux antipodes de ma vocation. Moi, j'étais né pour écrire, je suis né dans une tribu de poètes, j'avais ça dans les veines. Le verbe, c'est... la magnificence pour moi. J'ai une véritable vénération pour les écrivains. D'ailleurs, mes vrais professeurs, ma vraie famille, ce sont les écrivains. Ils m'ont accompagné partout. Mais l'enfant, cette partie de ma vie est restée figée. Voilà, c'est comme un point d'interrogation que j'essaie de redresser pour en faire un point d'exclamation.
Éric-Emmanuel Schmitt, toujours dans la préface, je crois, vous dites, par rapport à votre pudeur et votre réserve, vous dites « Ma réserve relève en outre d'un réflexe professionnel. Dédié à mon activité d'écrivain depuis des décennies, je tais mes secrets pour maintenir l'équilibre qui me rend fécond ou le déséquilibre. » Vaste sujet.
Oui. Si on lit mes livres, on peut voir que je peux, moi, éprouver un grand intérêt pour la psychanalyse, par exemple. Ma deuxième pièce, celle qui m'a fait connaître, c'était la rencontre de Sigmund Freud et Dieu, peut-être. Dieu s'allongeait sur le divan de Sigmund Freud. Ils avaient vraiment des trucs à se dire, ces deux-là. Comme ils sont d'accord sur rien, c'était intéressant. Mais dans ma vie, je me suis toujours refusé à un processus analytique. Je ne souhaite pas me connaître. Vous savez, Socrate dit « connais-toi toi-même ». Moi, j'ai l'impression que pour être écrivain, il faut d'abord dire « méconnais-toi toi-même ». Comme ça, tu deviendras les autres de tes romans. Et voilà, je n'ai jamais voulu trop enquêter sur moi-même, non pas que le sujet pue et que j'ai peur de... Mais je ne veux pas toucher à cet équilibre ou ce déséquilibre qui me rend fertile, qui me rend fécond. Et puis, je ne suis pas intéressé de savoir quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer le monde. Voyez, c'est d'épouser le monde et puis de le parcourir avec les livres. Et j'ai eu une grande réticence par rapport à l'autofiction, par rapport à l'écriture de soi. Il m'est arrivé, je sais pas, 2-3 fois sur plus de 40 livres de le faire. Et je savais parfaitement pourquoi je le faisais, mais parce qu'à ce moment-là, c'était la seule manière d'être authentique, c'était de dire je et dire ça m'est arrivé.
Dans le dernier, notamment.
Oui. Parce que je crois que quand on est écrivain, il faut choisir. Soit on est littéral, soit on est littéraire. Soit on est littéral, c'est-à-dire soit on dit tout de soi. Et à ce moment-là, je ne pense pas qu'on écrive beaucoup. Soit on est littéraire, c'est-à-dire on garde des réserves, des secrets, des non-dits, des tensions, des émotions, des sentiments. Et on les fait sortir que par la petite porte de l'écriture. Donc moi, j'ai choisi d'être littéraire plutôt que littéral.
Alors, je parlais du dernier, Madame Pilinska et le secret de Chopin. On pourrait presque penser que c'est un récit autobiographique. Pourtant, cet ouvrage s'inscrit dans le cercle de l'invisible.
Oui.
C'est pas pour rien. La musique a quelque chose pour vous, probablement, de divin, de sacré, de mystique.
Oui, le cycle de l'invisible, c'est une série de récits qui sont totalement indépendants les uns des autres, qui racontent chaque fois une histoire qui se confronte à une spiritualité. Alors, le premier, c'était Milarepa, il y avait le bouddhisme tibétain. Le deuxième, c'était Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, où il y avait cet islam du soufisme. Ensuite, Oscar et la Dame Rose, où il y avait le christianisme, l'enfant de Noé, où il y avait le judaïsme, le sumo qui ne pouvait pas grossir, parce qu'il y a des gens pour qui c'est un problème de ne pas grossir. C'était le bouddhisme zen, et puis ensuite les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu sur le confucianisme. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait la musique aussi, dans la nourriture spirituelle qui nous permet d'avancer. Parce que moi, la musique joue un rôle spirituel dans ma vie. C'est-à-dire la musique m'aide à grandir, m'aide à m'élever, me console, m'apaise, me nourrit, me donne des leçons de philosophie. Je pense que si je peux accepter la tristesse ou la mélancolie, c'est parce que les musiciens ont su rendre la tristesse et la mélancolie belles. Alors si c'est beau, je vais donc aimer la tristesse et la mélancolie. C'est une vraie leçon de philosophie. Alors ce livre, il est consacré effectivement à la musique sous la figure de Chopin, qui est pour moi le plus intime des musiciens.
Alors, j'avais lu vos deux livres d'entretien, Plus tard je serai un enfant et Le baiser à la morsure à leur sortie. Je les ai relus pour préparer cet entretien et j'ai lu dans la foulée vos nouveautés. Et donc chez vous, Éric-Emmanuel Schmitt, j'ai lu le livre d'entretien, puis Madame Pilinska, et je me suis dit, il y a vraiment un air de parenté. C'est comme si Madame Pilinska prolongeait un peu ce qui a été dit dans les entretiens.
Ah ben ça, je ne sais pas ce que dira Yasmina Kadra, mais moi je suis le fils de mes livres. Je ne suis pas le père de mes livres. Je suis le fils de mes livres, c'est-à-dire chaque livre me permet d'avancer. Parce que je n'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour découvrir ce que je pense. Donc chaque livre est une aventure exploratoire. Et donc chaque livre va m'apprendre quelque chose du monde, des autres, ou éventuellement de moi-même, et moi-même au sens assez universel. Et donc effectivement, les livres me permettent de m'approfondir. À chaque livre, je ressors enrichi, et pas seulement sur mon compte en banque. Je ressors enrichi d'une nouvelle aventure existentielle, psychologique, philosophique, humaine. Et donc, effectivement, dans Madame Pilinska, j'ai compris quelque chose de mon trajet de vie, puisque ce livre raconte... Après, je donne le crachoir à...
Non, c'est chacun son tour, il n'y a pas de souci.
Bon, alors, d'accord.
Je chronomètre le temps de parole, ne vous inquiétez pas.
Donc,
on n'est pas en politique.
Dans ce livre, effectivement, je raconte comment à 9 ans, j'ai été ébloui par la musique. Parce que dans la maison, il y avait un piano, c'était un ennemi, puisque c'est ma sœur aînée, qui a 5 ans plus que moi, qui est devenue une brillante biologiste, mais qui n'était pas destinée à être une brillante musicienne. Donc ma sœur torturait ce piano quotidiennement. Je haïssais ce buffet en noyer et je le contournais en me disant pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre auprès de machin pareil. Et puis un jour, une tante est venue à la maison. Elle s'appelait Aimée. C'est ma tante Aimée. Et ma tante Aimée s'est assise au piano et tout d'un coup, elle a domestiqué le fauve. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à jouer du Chopin. Et là, j'ai vraiment l'impression que tout changeait. J'ai l'impression que la lumière changeait dans la pièce, que l'air s'était chargé, qu'il y avait une paix, une lumière. Ça palpitait, quelque chose se passait, se produisait. Et à la fin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'était ? Elle m'a dit Chopin, évidemment. Et donc, le lendemain, j'ai dit à mes parents, je veux apprendre le piano. Et une semaine plus tard, je commençais le piano. Mais, j'apprends le piano, assez vite je joue des auteurs, certains correctement vraiment, je pense Mozart, toujours, je pense que je joue correctement Mozart, je joue correctement certains Debussy, etc. Chopin, je n'arrivais pas. Et donc le livre raconte quand à 20 ans, j'arrive à Paris, à Normal Sup, puisque je poursuivais mes études de philosophie à la rue d'Ulm, et j'ai un peu plus de temps à moi qu'en classe préparatoire, bien sûr. Et donc, sur les conseils d'amis parisiens, je vais consulter une professeure de piano polonaise émigrée à Paris qui enseignait dans une tour du 13e arrondissement, Madame Pilinska. Et là, je tombe sur un énergumène. On peut vraiment le dire. C'est-à-dire, premier cours, elle me dit « couchez-vous sous le piano ». Oui, Chopin a commencé ainsi, petit, il se mettait sous le piano de sa mère et il ressentait les vibrations.
Mais ça, c'est encore rien. Hein.
C'est rien. Parce qu'après, je joue du piano, elle m'arrête au bout de 35 secondes, comme si vraiment je m'étais assis sur le piano. Et elle me dit, bon, vous ne touchez plus un piano. Par contre, vous allez tous les matins au jardin du Luxembourg et vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Pour avoir un toucher délicat et des doigts qui sont reliés à la respiration de tout le corps. Puis elle me dit, écoutez le silence, parce que la musique en sort et y retourne, elle en est même cousue. Et puis, faites des ronds dans l'eau pour apprendre la naissance d'une onde, qu'elle soit liquide ou musicale, c'est pareil, pour voir la naissance d'une onde, la voir s'épanouir et puis la voir disparaître.
Et vous allez voir, le dernier conseil est le plus intéressant.
Voilà. Oui, il y a bon, regarder le jeu du vent dans les arbres pour voir la différence entre la solidité du tronc et le jeu des feuilles et de la ramure. C'est la main droite et la main gauche qui doivent avoir une certaine indépendance, mais tout en étant liées souplement. C'est le rubato pour ceux qui font du piano. Et puis, un jour, elle me dit, non, vraiment, je voudrais plus décontracter. Alors, la prochaine fois, venez après avoir fait l'amour. Puis elle me dit, attention, hein, l'amour avec quelqu'un, pas l'amour solitaire. Vous avez ça sous la main ? Moi, j'ai toujours été bon élève. Le samedi suivant, j'arrive. J'avais respecté ses prescriptions. Et elle est vraiment déçue. Elle me dit, ça ne donne pas ce que j'espérais. Hein ? Et sur le pas de la porte, elle me dit, la prochaine fois, regardez votre partenaire dans les yeux. Et c'est vrai que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et là, c'était fini, j'étais coincé. C'est-à-dire que ces cours de musique, c'était des cours de vie. C'est-à-dire qu'au fond, elle m'apprenait à devenir sensible, elle m'apprenait à devenir attentif. Elle avait vu arriver une grosse brute qui voulait jouer du piano, et elle essayait de trouver à l'intérieur un poète plus sensible qui serait non seulement capable de jouer du piano, mais peut-être d'écrire et surtout de vivre. Et effectivement, à partir du moment où on regarde dans les yeux, bah, c'est autre chose qui se passe. Et tout d'un coup, moi, je m'ouvre à la dimension amoureuse, parce qu'au fond, être amoureux, c'est accepter d'être dépassé par quelque chose de plus grand que soi, c'est accepter d'être submergé par un sentiment. De même que pour faire de la musique, il faut accepter qu'advienne quelque chose, c'est-à-dire accepter d'être pénétré et puis de réagir à ce qui se présente et de réagir à l'instant. Et donc ce mélange de concentration et de souplesse qu'il faut pour à la fois vivre et pour jouer et pour créer, c'est ce que je raconte dans Madame Pilinska et le secret de Chopin. Puis la suite, je ne raconte pas.
Non, la suite, il faut découvrir. Voilà. Exactement. Yasmina Kadra, puisqu'on a parlé de l'actualité d'Eric Emmanuel Schmitt, on va parler de la vôtre. Vous publiez un excellent roman chez Julliard qui s'appelle Khalil. Khalil, c'est l'histoire d'un garçon, j'allais presque dire de trois garçons. Mais celui qu'on découvre en premier, c'est Khalil. Il est avec Driss, qui est un des deux autres. Et on les découvre tout de suite dans le feu de l'action, puisque le 13 novembre 2015, Khalil appuie sur le bouton pour faire sauter sa ceinture d'explosifs dans le RER près du Stade de France et ça ne se déclenche pas. Et à partir de là, vous nous faites suivre ce garçon, vous nous faites découvrir sa vie, comment il a grandi, dans quel quartier, on est dans le fameux quartier de Molbeek. On voit comment ces gens ont grandi. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Khalil, son camarade Brice et le troisième qui s'appelle Ryan, finalement jusqu'à l'âge de 3 ans, ont pratiquement vécu dans la même pièce, dans le même appartement. Et on se rend compte que finalement, ce potentiel de départ va se développer de manière extrêmement différente chez l'un et chez l'autre, et chez les autres. Comment naît l'idée d'un roman comme ça ? Je trouve que vous apportez une pierre extrêmement intéressante à l'édifice de la réflexion sur la radicalité, sur... on parlera du sens de la dignité tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important, mais comment naît un roman comme ça ?
Ben, peut-être parce que ces trois garçons n'ont pas connu, n'ont pas eu un piano chez eux. Ils n'ont pas été outrés par une sœur qui torture le piano. Et puis, aucune tante n'est venue leur montrer ce que c'est que la magie de Chopin. Ce sont des enfants qui ont vécu dans... Pourtant, Molenbeek, c'est un superbe arrondissement. J'ai été là-bas pour mon livre et j'ai vu vraiment une humanité, une, assez imprégné de générosité, d'hospitalité. J'ai vu des gens vivre ensemble sans aucun problème. Et quand on entend, quand on se focalise sur des terroristes, c'est qu'on défigure toute cette image. Je vous assure que Molenbeek, moi, j'ai adoré. J'ai été bien accueilli. Vous ne savez même pas qui j'étais, mais j'étais seulement un badaud, mais qui était bien accueilli dans des cafés, dans des restaurants. C'est des gens fantastiques. Moi, je voulais revenir sur une thématique que j'avais souvent traitée, notamment dans les années du Seigneur à Kouarevelilou, qui sont devenus maintenant des références pour les chercheurs et tout. Mais je croyais avoir tout dit, mais on ne dit jamais assez. Et je suis outré, vraiment outré, de voir défiler sur les plateaux de télévision des gens qui viennent effrayer le peuple, qui sont dans la discorde, dans la haine. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre ces gens-là et les islamistes, parce qu'ils développent exactement le même discours, la peur de l'autre, la haine de l'autre. Donc j'ai voulu, à travers ce livre, apaiser les esprits et dire qu'il y a toujours, et rien n'est irréversible, on peut toujours sauver, on peut toujours améliorer, on peut toujours aller vers l'essentiel, et l'essentiel, c'est justement la vie. Il n'y a rien de plus essentiel que la vie. C'est d'une préciosité, c'est d'une chance inouïe. Donc, tout ce livre-là, j'ai essayé d'installer l'humain dans ce que tout le monde considère comme une violence. Et de cette manière, essayer de nous restituer à nous-mêmes, de recouvrer notre part de lucidité, d'avoir une sorte de raisonnement, d'être libre. Libre, et ça veut dire être responsable. Être libre, c'est être responsable.
Mais c'est un roman qui n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Vous parlez des vraies choses et des vrais problèmes.
Ah oui,
mais vous évitez tous les clichés et tous les a priori.
Ben, les gens qui utilisent les clichés se prennent des raccourcis, finalement, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'attarder sur un problème qui leur échappe. Les gens qui parlent, beaucoup de gens ont parlé du terrorisme, mais qu'en savent-ils véritablement? Moi, j'ai eu peut-être la malheureuse chance, parce que ça existe des chances malheureuses, d'avoir été soldat pendant 36 ans, d'avoir fait la guerre contre les GIA pendant 8 années, mais une guerre sans trêve. Et donc ma mission à moi, c'était d'être dans la tête de ces gens-là. Donc, il fallait penser comme eux, essayer d'envisager, enfin, de percevoir leurs intentions et d'être en quelque sorte leur représentant dans le camp ami. Et ça m'a permis de...
On verra même que Yasmina Kadra est née à cause d'un attentat le 19 novembre 1994.
Absolument, dans un cimetière, oui, c'était l'horreur. Mais ce livre-là, moi je trouve qu'il est nécessaire. Il faut impérativement aujourd'hui se poser quelque part. Et ce quelque part, ce doit être la raison. Voilà, il faut essayer de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que les autres voudraient qu'elles soient.
Ce qui m'a beaucoup frappé dans votre roman, c'est que Khalil est de loin pas un imbécile, c'est quelqu'un qui comprend très bien les choses, qui a une certaine vision du monde, qui a une perception. Et finalement, ce dont il souffre, c'est du manque de respect. Et globalement, il trouve qu'il n'est pas suffisamment respecté. Ouais. Et je trouve qu'au-delà de votre histoire, ce que ce roman dit, c'est qu'aujourd'hui, on se respecte de moins en moins.
Écoutez, essayons de nous attarder un peu sur les films de gangsters. Que dit un gangster? Le respect. Je veux qu'on me respecte. Parce qu'au fond de lui-même, il sait qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc, il n'a pas de respect pour lui-même, mais il existe des autres. Mais moi, je voulais surtout dire que la dérive ne commence pas dans la rue, comme le supposent certains, ni dans les prisons. Ça commence à la maison. Quelqu'un qui n'a pas de quoi être fier de sa famille, eh ben, il va se chercher une famille ailleurs. Quelquefois, il la trouve parmi dans la famille des artistes, dans la famille des athlètes, il devient footballeur, ou bien, quand il n'a aucun talent, il choisit tout simplement la facilité, être dans la famille des injustes. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Khalil. C'est quelqu'un qui veut se donner une visibilité et à travers cette visibilité, se prouver qu'il pouvait aussi être souverain. Et malheureusement pour lui, il a choisi d'être souverain dans l'absurdité, dans la violence, voilà.
Je reviens à notre thème de l'enfance, et on parlait tout à l'heure avec Eric Emmanuel Schmitt d'équilibre ou de déséquilibre. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre d'entretien, Yasmina Kadra, c'est la succession d'équilibre et de déséquilibre, de bons moments et de moments terribles. Et je me suis demandé où vous alliez chercher l'énergie, la résilience pour toujours vous remettre sur vos pieds et aller de l'avant et jamais baisser les bras.
Ben, c'est le message que je lance à tout le monde finalement. J'ai écrit dans ce que le jour doit à la nuit. À un certain moment, il y a une prostituée qui dit à mon personnage qui est complètement qui déprimé, il n'y a qu'un seul Dieu sur terre et c'est toi. Si le monde ne te convient pas, ben, invente-toi un autre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Si le monde ne vous impressionne pas ou vous fatigue, ben, essayez d'inventer un autre. Et c'est facile. La preuve, moi j'ai été ravi à ma famille à l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans, là où j'ai besoin de ma maman, de mon père. Et j'ai été enfermé dans une enceinte, dans un milieu quasi carcéral, parce qu'on était traités comme des tolards. D'accord. Mais j'ai voulu être moi. J'ai tenu à être moi. Je voulais m'inscrire dans ce qui m'émerveillait le plus, la littérature. Et je n'avais aucun moyen, aucun outil pour devenir écrivain. Et j'écris dans une langue que je n'ai jamais étudiée, mais que l'amour m'a permis d'adopter. Et elle m'a adopté aussi. Donc, nous sommes capables de vivre ce que nous voulons. D'ailleurs, les gens qui se sont accrochés à leur rêve ont fini par l'atteindre. Et j'ai dit quelque part même, ce n'est pas tellement important de réaliser son rêve. Parce que le plus important, c'est d'y croire. Et c'est cette foi qui nous aide à avancer dans la vie.
Moi, ce que j'ai découvert en lisant votre livre d'entretien, c'est que, au fond, dans vos livres, que j'aime beaucoup, je tiens à le préciser, mais vraiment...
Il insiste.
Oui, oui. J'insiste.
Pour vous.
Oui, j'ai découvert qu'en fait dans vos livres il y avait des anti-héros et que vous étiez par contre le héros de votre propre vie. C'est véritablement une vie de résistance à tous les obstacles et ils ont été nombreux et ils ont été puissants et ils ont été forts, etc. C'est une véritable démarche héroïque pour devenir soi-même et par contre souvent vous représentez dans vos livres les vaincus de la vie.
Ben, pour leur dire qu'il ne faut pas accepter la défaite. On est tous les héros de nous-mêmes, hein, quelque part. Il suffit d'y croire. Et c'est quoi finalement un héros? C'est quelqu'un qui, un jour, est confronté à des événements qui le dépassent et qui s'accroche quand même à ce qu'il est. Et j'ai écrit dans l'équation africaine, le courage, le vrai, c'est d'être soi. Il ne faut jamais essayer d'être ce que les autres voudraient que vous soyez. Il faut être soi. Moi, en France, par exemple, je suis un peu marginalisé parce que je suis moi. Je n'ai jamais accepté d'être ce qu'on voudrait faire de moi. C'est une trahison, c'est une désertion, c'est une négation de soi, c'est le déni de soi. Donc le respect que n'a pas mon Khalil, c'est parce qu'à un certain moment, il ne voulait plus être lui-même. Il le disait dans le texte, il dit, j'étais tellement hors de moi que parfois je me voyais vraiment loin de moi. Voilà, c'est la vie, il faut l'accepter. La meilleure façon de vivre, c'est peut-être de rester dans la simplicité. Il ne faut pas se compliquer l'existence. Aller vers les gens qui nous aiment, c'est déjà beaucoup. J'ai dit, l'essentiel de la vie, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas, je ne sais pas moi, tout ce qui fait frémir les âmes. L'essentiel de la vie, ce sont ces rares moments de joie que l'on partage avec les gens qu'on aime. C'est tout ce qu'on va garder dans l'au-delà, si toutefois il y en a eu.
Si Eric Emmanuel Schmitt a peut-être insisté tout à l'heure, c'est probablement à cause de ce que vous expliquez très bien dans ce livre d'entretien, c'est qu'en fait, vous avez toujours été en décalage. Quand vous étiez militaire, vous avez commencé à écrire et on vous regardait de travers parce qu'un militaire qui écrit, c'était pas bien vu. Ça vous a coûté cher, ça vous a freiné dans la carrière militaire. On vous a remis la médaille du mérite, mais on vous a pas donné les galons qui allaient avec. Et puis, une fois que vous entrez dans le monde littéraire, qu'est-ce que c'est que cet écrivain qui était soldat? C'est suspect, cette affaire. Ouais. Vous avez toujours été de travers, finalement.
Oui, mais il faut accepter. Voilà, il faut accepter. C'est vrai que c'est très difficile de voir un type, un bédouin, qui arrive du fin fond du désert avec sa poussière et avec son uniforme, son trier complètement indécrottable, et de s'installer dans les salons prestigieux de la littérature. On n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de continuer d'écrire et d'être digne de l'intérêt que nous portent nos lecteurs.
Je vais revenir, Eric Emmanuel Schmitt, à ce qu'on disait au début de cet entretien, qu'on n'est pas la même enfance à tous les âges. Et vous dites qu'à un moment, c'est la philosophie, finalement, qui vous a permis de retrouver le dynamisme curieux de votre enfance. Et je trouve que c'est vraiment ce qui anime toute votre production littéraire depuis des années, cette espèce de curiosité de l'enfance, alors avec le bagage du philosophe, bien sûr, oui. Mais cette curiosité fondamentale.
Bah, pour moi, une vie d'adulte réussie, c'est une vie dans laquelle l'adulte donne ses moyens d'adulte à l'enfant. Moi, je suis à la fois un adulte et un enfant. Il y a un adulte qui a fait des grandes études, qui est très bosseur, qui a beaucoup d'énergie, et qui tient dans sa main un enfant qui avait plein de rêves. Et l'adulte, c'est l'enfant qui montre où il faut aller. C'est lui qui décide du chemin, mais c'est l'adulte qui l'aide à réussir. Et moi, c'est vrai que je cultive l'esprit d'enfance. Mais parce que j'ai eu la chance de peut-être pouvoir la vivre, cette enfance. Je cultive l'esprit d'enfance, c'est-à-dire j'ai essayé de garder, et la philosophie m'a aidé, j'ai essayé de garder l'esprit d'enfance. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit d'enfance ? C'est pas du tout la nostalgie de l'enfance. Moi, je suis la personne la moins nostalgique et la moins mélancolique qui soit. La seule nostalgie que je connais, c'est la nostalgie à l'avance. Je ne sais pas si ça vous arrive, c'est-à-dire on vit quelque chose et on se dit ça va passer. Et en fait, on dort le présent, on lui met la couleur de ce qui passera et ça le rend encore plus précieux et ça nous rend encore plus attentifs. Donc la nostalgie à l'avance, c'est la nostalgie que je pratique. Mais la nostalgie du passé, non, même si bien sûr, il y a des êtres qui me manquent. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des qualités spontanées dans l'enfance que la vie détruit. Une des premières qualités spontanées de l'enfance, c'est l'humilité. On sait qu'on ne sait pas. Et tout d'un coup, on a 20 ans, on croit qu'on sait. Alors là, le monde devient très, très ennuyeux. Et ensuite, dans l'enfance, et en plus, c'est une qualité philosophique, l'humilité. Je sais que je ne sais pas, première parole de Socrate. Ensuite, il y a dans l'enfance un consentement au mystère. L'enfant vit dans un mystère, dans un monde qui est plus grand que lui, qui lui échappe, dont il ne possède pas les clés. Et il est familier du mystère. Un enfant fréquente très naturellement le mystère. Et les adultes, beaucoup moins. Et moi, j'ai dû faire un grand trajet dans ma vie. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait un désert en commun.
On va y venir, à ce désert.
Voilà, moi, j'ai fait un grand trajet dans ma vie pour retrouver cette proximité du mystère, cette familiarité du mystère, et accepter le mystère, arrêter de prétendre que je sais quand je ne sais pas, mais habiter le mystère d'une façon confiante, c'est sans doute ça la foi, habiter le mystère d'une façon confiante et non pas d'une façon angoissée. Il y a tout ça dans l'enfance, je trouve qu'on perd parce que la vie nous donne des coups, parce que la vie nous attriste, parce que la vie nous met en face d'immenses scandales, de violences, etc. Donc on peut perdre cette sorte de foi spontanée, d'humilité spontanée, mais je crois que le travail de l'adulte, c'est de la retrouver, et de retrouver ces sentiments spontanés, mais réfléchis, argumentés, et moi la philosophie m'a aidé à faire ça.
Je le disais en introduction.
Oui,
bien sûr, Yasmina. Phrase.
Il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui ne sait pas est une calamité.
Oui. » Très joli, ça valait la peine. Je disais en ouverture de cet entretien qu'une des pistes explorées par Catherine Lalanne, c'était de savoir si finalement l'enfance était constitutive de cette vocation d'écrivain. Donc forcément, dans vos deux livres d'entretien, on parle d'écriture, de vocation littéraire. Yasmina Kadra, vous avez presque toujours rêvé de devenir écrivain. Poète d'abord, poète en arabe comme votre grand-père. Puis, grâce à Yvan Davis, à qui vous rendez hommage, un enseignant qui vous fait lire Camus. Et à partir de là, vous ne voulez plus être poète en arabe, mais romancier en français.
En vérité, je n'ai aucun mérite. Je n'ai fait qu'hériter de mes ancêtres. Tous mes ancêtres de 1492 à aujourd'hui ont été tous des poètes ou des savants ou de grands enseignants itinérants. J'ai même un arrière-grand-père qui s'appelait Sidi Abdelrahman Moussoul, qui était le principal conseiller du roi de Meknès. Il y a un autre qui s'appelle Sidi Ahmed Moussoul, qui a un mausolée du côté de Tlemcen et qui allait d'une confrérie à l'autre pour enseigner la littérature, la poésie et tout. Donc,
vous racontez très bien l'histoire de votre tribu au début des entretiens, c'est formidable.
J'ai hérité ça. Je n'ai jamais compris pourquoi mon père m'a mis dans une caserne. Voilà. Lui, il n'a jamais été poète, hein, sincèrement. Donc, il n'a pas compris pourquoi j'étais là. Mais ce n'était pas seulement un rêve, c'était une destinée qui a été vraiment confrontée à des obstacles. Voilà. J'ai évolué dans un monde aux antipodes de la vocation d'écrire, c'est l'armée. L'armée, on a une tête pour porter un casque, pas pour rêver. Voilà. Et malgré tout ça, j'ai réussi, grâce aux écrivains, grâce aux gens qui, Mark Twain, Joseph Kessel, Naguib Mahfouz, Mohamed Dib et tout. C'était, vous savez, quand j'étais dans, je vous assure, quelquefois, quand j'étais capitaine, et j'avais la responsabilité de 1100 kilomètres de frontière, 300 côté malien et 800 côté nigérien. Donc ma tournée, c'était 2 semaines. Et tous les postes relevaient de mon autorité opérationnelle. Et quand je faisais cette tournée, j'arrivais quelquefois dans un poste. Il n'y a rien, absolument rien. Il y a le silence, la nudité, l'immensité qui nous renvoie à notre insignifiance. Eh bien, je vous assure, il me suffisait de prendre un livre, d'un seul coup, le monde est là. Et je vois mes personnages courir, j'essaie de les rattraper, tout, c'est magique. J'ai trouvé que c'est, le livre, c'est le tapis volant. C'est le tapis volant qui est destiné à tous ceux qui veulent s'évader et découvrir le monde. Ils nous font découvrir le monde, ils nous font découvrir à nous-mêmes. C'est pour ça que les gens réagissent différemment à un livre. Vous allez là où on met des étoiles, il y a des gens qui vous mettent 1 étoile et d'autres 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, le livre, c'est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Si nous sommes incapables d'accéder à une œuvre, quelque part, c'est qu'on est incapable d'accéder à soi-même.
Mais vous dites d'ailleurs très bien que le goût de la fiction vous vient par envie de déserter. Vous dites que vous écrivez pour déserter, que vous lisez pour aller à l'air libre.
Oui, j'ai dit beaucoup de conneries. Mais en réalité...
C'est pas tellement une connerie, ça.
Oui, j'ai surtout dit que la fiction me venge de l'affliction du réel. Voilà. Voilà. Et c'est vrai, je suis tellement malheureux dans la réalité. Je suis tellement malheureux avec mes pères, avec les gens qui sont censés être ma famille. Ce qui m'a fait traverser 36 ans d'armée en tant que paria, c'est justement qu'au bout du tunnel, je voyais une lumière. Et cette lumière, c'était la famille des intellectuels, des écrivains. Et finalement, quand je suis arrivé au bout du tunnel, cette flamme, ce n'était pas la lumière du soleil, c'était la lumière de l'enfer. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché, parce que je n'ai pas compris. Et puis par la suite, je me suis remis en question. J'ai dit finalement, ça a été mon destin. Ça a été toujours comme ça. Alors continue ton chemin.
Oui, mais vous savez, la famille, là, il y a un petit peu de naïveté.
Oui, je suis très
naïf. Il y a un petit peu de naïveté. Moi, je n'ai jamais pensé que j'allais rejoindre une famille d'écrivains. Je savais que famille des écrivains, c'était...
Eric, non, vous aviez un piano à la maison?
Ah oui. Mais je l'ai apprivoisé, hein, parce qu'il n'est pas venu tout seul. Parce qu'avec ma sœur, il était horrible, ce piano. Non, mais, ça me touche que vous soyez naïf comme ça. Parce que là, il est enfant. Je crois qu'on rejoint pas une famille d'écrivains. Votre vraie famille, c'est votre public. Et c'est ça qui est important.
C'est mon peuple, c'est ma patrie.
Exactement. Et il est là. Exactement. Et parce que la famille des écrivains, c'est les sœurs de Cendrillon. Hein.
Oui, mais cette naïveté m'était nécessaire parce que si je n'avais pas cru, jamais je n'aurais laissé traverser le désert.
Ah, non, moi, je suis un partisan de la naïveté. Il faut absolument être naïf, c'est-à-dire avoir l'énergie de la première fois, l'énergie de l'idéal et l'énergie de l'innocence. Il faut cultiver ça. Oui ?
J'étais en train d'ouvrir ma bouteille, pris par surprise. Eric-Emmanuel Schmitt, vous avez longtemps cru qu'on ne naissait pas écrivain, mais qu'on le devenait. Et j'ai le sentiment que ces entretiens avec Catherine Lalanne ont un tout petit peu fait bouger les lignes.
C'est vrai. Je rejoins totalement ce que disait Yasmina Kadra, c'est-à-dire c'est un destin d'être évident, d'être écrivain. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on découvre et auquel on finit par céder. Voilà, une vraie vocation, c'est pas une révélation qu'on a comme ça avec des anges qui viennent vous dire tu seras Victor Hugo. C'est une espèce de nécessité intime, impérieuse et sourde. Moi, quand je rentrais à la maison, quand j'étais petit, j'écrivais des histoires. Mais je n'ai jamais pensé que mes camarades faisaient autre chose quand ils rentraient chez eux. J'étais absolument persuadé que tout garçon et toute petite fille rentrant dans sa maison se mettaient à écrire des histoires. Parce que je trouve ça m'était naturel comme le pommier fait les pommes. Et donc tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. Voilà, mes parents avaient compris, j'avais été diagnostiqué très clairement par tout le monde. Mais moi, comme je suis très curieux et très enthousiaste, j'avais des appels du désir pour des tas d'autres choses, la musique, le cinéma, l'archéologie, le théâtre. Alors, ça va, je succombe à ces passions.
Le théâtre, ça va.
Hein. Oui, oui, non, non, mais je me suis...
Cinéma aussi.
Oui, j'ai épousé pas mal de mes passions, mais c'est vrai que je suis spontanément écrivain.
Et, mais je peux me permettre, parce que en lisant Madame Bilinska, je me suis dit, il va nous le monter sur scène.
Oui, 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 oui.
Et il va nous jouer du piano.
Ah, mais pas aujourd'hui.
Non, pas aujourd'hui. Non, le piano n'est pas arrivé.
Parce que déjà, comme j'avais insulté ma sœur en disant qu'elle jouait mal, ça allait être mon tour. Oui.
C'est un projet, vraiment ?
Non, je l'ai fait, ça y est. Je l'ai créé cet été en festival. J'ai monté, j'ai arrangé le texte pour en faire un, comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un monologue dramatique. Enfin, dramatique et comique, parce que Madame Pilinska fait quand même beaucoup rire. Et je l'ai joué cet été avec un merveilleux pianiste qui s'appelle Nicolas Stavi.
Vous qui avez joué ?
Si, quand il faut jouer mal, c'est moi.
D'accord.
Parce que je joue avec un pianiste absolument merveilleux, Nicolas Stavi, qui a enregistré plein de CD et qui prit Chopin à Varsovie. Et quand je lui ai dit, là, bon, il faut que tu joues, mais mal, je me suis rendu compte qu'il jouait mal.
Ok.
Alors que moi, je joue bien mal.
Ouais.
Et il faut vraiment être catastrophique, je vais au piano. Et puis quand il faut que ça soit sublime, je lui laisse le piano.
Ok. Vous faites quoi le premier week-end de septembre l'année prochaine ?
Mais je joue beaucoup plus mal que je ne joue mal en vérité. Hein,
d'accord.
Sur scène.
Ok.
Et je fais quoi ?
Le premier week-end de septembre 2019.
Ah. Madame Pilinska, le secret de Chopin à Morges.
Ici.
Ben voilà.
Sérieux ?
Je sais pas.
Allez.
Voilà.
Ok. C'est nos nouvelles méthodes de programmation, on les prend en public, comme ça ils ne peuvent pas dire non. Après, vous êtes libre, vous n'avez même pas consulté votre agenda, je ne vais pas vous mettre dans la panade non plus. Où vous avez raison, c'est que, alors pas tous les garçons de 10 ans écrivent des romans, ils ne sont pas tous romanciers, mais Yasmine Akadra, lui, oui. Dans sa caserne, à l'âge de 10 ans, il nous fait Le Petit Mohamed, qui est un peu calqué sur Le Petit Poucet quand même, hein.
Oui, c'était d'ailleurs la première fois que j'étais récompensé. Et je me suis dit, bon...
Pas la dernière, quand même.
Non, c'était la... Oui, c'était la première fois. D'habitude, j'étais toujours puni. Et puis, ma première récompense, je la dois à une petite nouvelle. C'était Le Petit Mohamed. C'était...
Mohamed, c'est votre vrai prénom.
Oui, mais contrairement au Petit Poucet, moi, je montre le chemin à mes frères avec mes cailloux blancs. Et puis, je reste dans la forêt. Parce que la proximité des loups m'a paru beaucoup plus instructive que la proximité des hommes. Et j'ai hurlé avec la meute dans la nuit. Et j'ai appelé toutes les étoiles du ciel. Et je suis devenu poète. Enfin, j'espère.
Éric Emmanuel. Éric Emmanuel Schmitt, vous dites que la première comme la dernière fois, on écrit le livre qui nous manque. Ça a commencé assez tôt chez vous, quand vous avez terminé de lire tous les Arsène Lupin. À 11 ans, vous en avez écrit un supplémentaire.
Ouais, j'étais trop triste, il n'y en avait plus dans la bibliothèque de mon père. Et donc j'avais 11 ans, j'ai pris un gros cahier rouge, j'ai écrit une nouvelle aventure d'Arsène Lupin par Éric Emmanuel Schmitt.
C'est collector, hein ?
Ouais. Et puis voilà, j'ai écrit le livre qui me manquait. Bon, à l'époque, c'était celui-là. Et puis, mais c'est toujours ça. On écrit les livres qui nous manquent. Il y a quelque chose de profondément. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que j'ai jamais compris les gens qui ont des problèmes d'inspiration. On a d'ailleurs du mal à comprendre des gens comme Yasmine Akadra et moi qui produisons aussi, je dirais, aussi saisonnièrement. Parce qu'on est soumis au cycle des saisons, il y a quelque chose d'extrêmement naturel, etc., etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de constipés qui... Non, mais je veux dire, on peut faire un chef-d'œuvre en 10 ans, mais il y a beau... Mais moi, je vais pas suspecter quelqu'un qui fait un livre tous les 5 ans de faire un mauvais livre parce qu'il a mis 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi suspecte-t-on des gens qui ont une production plus florale et naturelle de trop produire, hein. Non, mais c'est un problème qu'on peut rencontrer parce qu'on n'est pas tous les mêmes écrivains.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté aussi
dans
ce que vous venez de dire ? Est-ce que finalement, à tous les deux, ce qu'on vous reproche avant tout, c'est votre succès ?
Ah ! Bah, tant mieux, ça veut dire qu'on aurait raté autrement.
Mais c'est ça qu'on vous reproche globalement. Quand on dit que vous produisez trop, que ceci, que cela, c'est que on est très jaloux de votre succès, non ?
Oui, en même temps, c'est une époque qui parle d'elle-même. Regardez, nous, la façon dont on écrit, dont on produit, ressemble totalement aux hommes du passé. Je veux dire, au XIXe siècle, Maupassant a tout écrit, vous vous rendez compte, tout écrit en 10 ans. 300 nouvelles et 6 ou 8 romans, je ne sais plus.
Balzac.
Balzac, n'en parlons pas. Colette publiait 2 livres par an. C'est-à-dire, nous, enfin, on a un rythme normal. C'est nous qui sommes des écrivains normaux, naturels. On n'est pas des écrivains sous serre.
Et puis, il y a Paris aussi. Moi, je viens du désert, du soleil. Et je me retrouve dans une ville où la grisaille est quasi permanente. Et quand il pleut, je ne peux pas sortir. Et je peux pas, je peux rester 4-5 jours chez moi. Je ne sors même pas sur le palier. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris. J'aime écrire. C'est une manière à moi de restituer tout ce qui m'a été confisqué. Et c'est un monde qui me manque, donc on essaie de le meubler à notre manière. Donc, et je crois que le livre, ce n'est ni une question de volume, ni une question de temps. C'est une question de générosité. Il y a ceux qui peuvent... Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été écrits en 2 semaines, 3 semaines. Il y en a d'autres qui n'ont pas été très, très bons, malgré qu'ils aient été écrits en 10 ans. Donc ça...
J'ai été un tout petit peu présomptueux, j'ai préparé trop de questions, mais on va quand même essayer d'aller à l'essentiel, parce qu'on vient de reparler de désert. Mais je le disais tout à l'heure, Yasmina Kadra, vous expliquez que Mohamed Moulesehoul, qui est votre vrai nom, est devenu Yasmina Kadra le 1er novembre 1900.
Il ne faut pas le dire, je n'ai pas mes papiers sur moi ce soir. Mohamed, ça fait trembler, alors. Je suis Yasmina, c'est plus délicat.
Oui, alors, comme je parle du livre d'entretien, Mohamed Moulesehoul, il y a quand même beaucoup. Hein.
Je me suis trahi. Oui.
Voilà, exactement. Mais vous dites que vous êtes devenu Yasmina Kadra le 1er novembre 1994. Ce jour-là, le militaire que vous êtes est dans un cimetière à Sidi Ali. Une bombe explose cachée dans un tombeau.
Dans une tombe de martyrs, oui.
Ouais. Et tue 5 scouts. Ça vous révolte, évidemment. Ça vous choque, bien entendu. Mais ça provoque quelque chose d'incroyable parce que un mois plus tard, vous avez dans les mains
Morituri,
le manuscrit du roman qui va vous révéler, ouais, au grand public, Morituri.
Ça ne m'a pas choqué, ça m'a complètement anéanti. Parce que je ne me souviens pas de comment j'ai écrit ce livre. Vraiment. Ma femme me dit que j'étais devenu insomniaque. Voilà, je ne dormais plus. C'est vrai, je ne dormais. Mais pendant 30 jours, j'étais dans une sorte de catalepsie. Je ne savais rien. Et au sortir de ce mois, j'avais ce livre-là, un roman policier. Je ne sais pas pourquoi le roman policier, peut-être parce que c'est un genre mineur. Et comme la vérité sort surtout toujours de la bouche des enfants, ben, j'ai choisi ce genre mineur. Voilà, et c'est... Moi, je voudrais juste dire une chose. J'aurais pu sauver Eric. Oui, quand il s'est perdu dans le désert.
Oui, alors j'allais y venir.
Oui.
Ah non, mais c'est vrai, c'est un scoop. On l'a découvert ensemble un jour. Ouais.
Il s'était égaré dans le désert. Et moi, à l'époque, j'étais le responsable des frontières. Et ma mission, c'était d'aller chercher justement les égarés. Ah, j'aurais pu me faire un grand ami, finalement.
C'était le même désert.
Mais j'ai un ami,
c'était,
quand même.
Oui, c'est en 1989.
C'est le même désert.
Ben oui, moi je suis allé à Taman Rasset, j'ai marché jusqu'à la Sécrem. C'était des territoires que tu surveillais.
Oui, absolument.
Exactement. Et moi, bon, c'est vrai que bon, l'histoire est connue, mais moi, je me perds de partout, mais généralement je ne trouve rien. Mais là, dans le désert, je me suis perdu. Et c'est vrai que pendant plus de 30 heures, j'ai vraiment erré dans les massifs montagneux du Hogar. J'avais perdu notre campement qui était dans un ouet. J'avais perdu les 10 personnes avec qui je traversais le désert. Et ce qui aurait dû être une expérience horrible a été la plus belle de ma vie. Je l'ai raconté dans le livre
La
nuit de feu, puisque j'ai passé une nuit sous les étoiles qui, loin de me développer la peur, m'a apporté la confiance et la foi. Bref, une nuit mystique. Une nuit comme...
Vous imaginez si je l'avais sauvé?
Il fallait me sauver juste après.
J'aurais un académicien dans la poche. Et je n'aurais plus d'ennemis dans le milieu littéraire. Mais malheureusement, je ne l'ai pas sauvé.
Fallait que tu me sauves juste après la nuit, s'il te plaît.
Oui, oui, elle est importante, ça va quand même. Elle est importante. Ouais. Puisqu'on a commencé,
j'ai vu qu'on a ça en commun.
Oui,
parce que pour toi aussi, le désert est un lieu hautement, exactement, spirituel où tu vas souvent.
Et c'est d'ailleurs en cherchant des gens perdus dans le désert que vous avez découvert un endroit qui est devenue votre retraite, où vous allez vous ressourcer, vous libérer, vous plonger à l'intérieur de vous-même. C'est le point P64.
Oui, je l'ai appelé moi comme ça, mais vous savez ce qui est étrange. Cet été, j'étais en Algérie et j'ai appris qu'il y a des gens qui sont allés chercher le point.
Ah ouais. Oui. Et ils l'ont trouvé?
Hein?
Ils l'ont trouvé?
Non.
Non. Je ben comme il n'existe pas, il n'y a que vous qui savez qu'il s'appelle
P64. Non, il existe véritablement, mais pas dans l'endroit, dans un endroit assez peu fréquenté, oui. Sauvage et tout. Et j'ai décidé de... J'ai un manuscrit, un navet que j'avais écrit, et je vais le cacher là, comme ça. Après ma mort, beaucoup de gens vont le chercher. Voilà, je vais créer une légende.
C'est une belle manière d'entrer dans la postérité, finalement, mais vous y êtes déjà dans la postérité. J'aimerais qu'on reste une seconde sur le désert, parce que visiblement pour vous, c'est extrêmement important. Vous y allez parfois même sans le dire à votre femme, hein, vous prétextez des rencontres littéraires ailleurs dans le monde.
Oui.
Et vous allez vraiment, vous vivez nu à certains moments.
Il ne faut pas le dire.
C'est écrit.
Moi, oui, mais il faut pas le dire.
Je ne parle que de ce...
Je suis tellement pudique.
Alors, on fait comme ça.
OK.
Vous vivez nu dans le désert.
Non, mais c'est une liberté. Moi, je vais dans cet endroit pour me ressourcer. On croit être seul dans le désert, mais c'est faux. Hein?
Oui.
On convoque le monde entier. Tous les absents sont là. Tous les êtres qui nous manquent, toutes les interrogations qui s'étaient refusées à nous rejoignent. Donc on est dans un monde en ébullition, dans le désert. Et ce qui est bien, c'est qu'on est libre, on est libre d'être soi. Et il m'arrivait d'être tout nu, voilà, de courir sur le sable, je deviens fou. J'essaie de conjurer toutes les toxines qui abîment mon intérieur. Et le plus étrange, c'est que le soir, la nuit, j'allume un petit feu et j'écoute le silence. Et je suis persuadé que Moïse allait m'apparaître. Je vous assure, j'attends comme un idiot, j'attends Moïse comme ça, et je ne vois ni son bâton, ni son ombre, c'est terrible quand même. Mais c'est un monde qui nous renvoie à ce que nous sommes véritablement, c'est des êtres éphémères, on n'est que des grains de poussière finalement. Mais ce petit grain de poussière pourrait devenir un verger si on essaye de l'arroser avec les meilleures intentions du monde. Il faut être dans les meilleures intentions, écrire c'est une meilleure intention. Ouais. Chanter, voilà, il faut la générosité, voilà.
Il y a un autre point.
Mais ce que tu sais pas, c'est que j'ai reçu un manuscrit. C'est les mémoires d'un scorpion de Taman Rasset, qui raconte tout.
Ah bon?
il l'a trouvé dans un truc qu'on appelle le point P64.
Non, c'est pas possible.
Il y a un autre point qui vous rassemble et que j'aimerais aborder, c'est celui de la foi, puisque Eric Emmanuel Schmitt, vous racontiez cette nuit dans le désert, qui a fait que entre Dieu existe-t-il ou Dieu n'existe-t-il pas, vous êtes passé du plutôt non au plutôt oui, qui fait qu'aujourd'hui vous avez la foi.
C'est pas plutôt oui ou plutôt non.
Je pense que oui.
C'est voilà. C'est-à-dire il faut. Non, je crois que oui. Parce que croire, ce n'est pas penser, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous me posez la question « Est-ce que Dieu existe ?», je vous répondrai « Je ne sais pas, mais je crois que oui. » De même qu'un athée, vous lui direz « Est-ce que Dieu existe ?», il va vous répondre « Je ne sais pas, mais je crois que non. » Et l'indifférent va vous dire « Je ne sais pas et je m'en fous. » Mais les trois sont honnêtes parce que les trois disent « Je ne sais pas, agnosko », ce qu'on a tous, enfin en grec qui veut dire « Je ne sais pas ». Donc ce qu'on a tous en commun, c'est l'ignorance. Dieu n'est pas un objet de savoir. Dieu ne se trouve pas sous la lentille d'un microscope ou d'un télescope. Dieu n'est pas à l'issue d'un raisonnement mathématique ou philosophique. Dieu n'est pas là. Il relève d'un expérimenté ou d'une adhésion. Donc, il ne faut surtout pas confondre croire et savoir. Ce que je sais n'est pas ce que je crois. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Mais j'habite l'ignorance d'une toute autre manière.
La foi, elle est importante pour vous aussi, Yasmina Khadra. Et dans ces entretiens, vous dites que ce fameux 19 novembre 1994, vous la perdez, la foi, quand vous voyez ces 5 scouts
déchiquetés
par une bombe. Vous la perdez, vous l'avez retrouvée. Vous êtes croyant, j'allais dire profondément croyant. J'ai cru comprendre ça.
Mais je l'ai déjà écrit, je rejoins Eric. Là. Je crois parce que je ne sais pas. Voilà, et je préfère rester dans le doute. Et le doute nous rapproche beaucoup plus de la foi que l'athéisme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la véritable liberté, c'est justement ça. Croire ou ne pas croire. Chacun est libre. Voilà. Il y a des gens qui sont persuadés, qui sont tellement sûrs d'eux, ils croient qu'ils peuvent vivre sans Dieu. C'est leur droit. Il y en a d'autres qui ont besoin de croire en Dieu. Et c'est leur droit. Moi, j'ai perdu cette foi parce que je ne pouvais pas comprendre. C'était le premier attentat auquel j'assistais en direct. Il y avait des scouts, là, c'était la fête nationale, l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Et toutes les autorités étaient là. C'était un petit village dans un, vraiment, qui a été choisi pour son histoire. Il comptait tellement de martyrs et tout. Et il y avait ces enfants, des scouts. C'était beau, je vous assure, c'était beau comme des anges. Et d'un seul coup, paf, ça explose. Et je vois ces anges rejoindre le ciel, mais dans des circonstances intenables. Et j'ai perdu la foi. J'ai dit, comment Dieu a-t-il pu autoriser ou permettre une telle chose? Donc, j'ai perdu. Je suis devenu, non pas athée, mais anti-Dieu. Quoi. Mais la colère, il faut savoir la gérer. Et quand j'ai compris que quand même, nous sommes les seuls artisans de nos malheurs, il ne faut pas chercher un coupable loin de ce que nous sommes en train de faire.
Et puis, être fâché contre Dieu, ce n'est pas ne plus croire en Dieu.
Oui, il continue d'y croire, mais le bouder un peu. Voilà. Devenir un petit peu son enfant. Voilà. Alors, il n'a pas eu son gâteau.
Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais là, il vient de se passer un miracle. Vous n'allez pas le croire, ça fait une heure qu'on parle. On a l'impression que ça fait 5 minutes. Donc il y a malheureusement un certain nombre de sujets que j'avais prévu d'aborder, qu'on n'abordera pas. Mais si on lit attentivement le livre d'entretien d'Éric Emmanuel Schmitt avec Catherine Lalanne, on verra que cette belle enfance, il y a aussi quelques blessures, un sentiment de rejet parfois. Si on lit très attentivement, on découvrira une autre blessure en cours de route. Chez vous, Yasmina Kadra, il y a de très belles pages sur votre épouse. Vous dites avec beaucoup de joliesse, j'aime bien ce mot, que votre mariage est un mariage arrangé, mais que...
Heureusement pour moi.
Et que ce mariage...
Avec la gueule que j'avais, c'était pas possible. D'ailleurs, ma fille, quand elle avait 5 ans, elle était en train de feuilleter l'album de notre mariage. Et à un certain moment, elle voit sa maman, qui est très belle. On l'appelait Lady Diana, elle ressemble beaucoup à Lady Diana. Et je vous assure, ceux qui ont vu le film Yasmina et Mohamed... elle, vraiment, c'est Lady Diana. Et moi, j'étais là, maigre et noir comme un clou. J'étais moche comme un pouce. C'était pas... Elle m'a dit, maman, comment tu as fait pour épouser une telle mocheté? Mais c'est une femme qui m'a reconstruit. Vraiment.
Surtout, vous vivez depuis 30 ans un amour extraordinaire.
Oui, on est mariés depuis 33 ans, mais pour moi, c'est 33 jours. Oui, je vous assure que c'est la vérité. Voilà. Elle a fait de Mowgli un homme civilisé. Elle
voilà, il y a tout ça dans ces deux livres d'entretien. Si vous êtes des lecteurs attentifs, vous y découvrirez encore plein de petites choses qui éclairent d'une manière très intéressante et très intelligente, parce que Catherine Lalanne l'est, l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt et de Yasmina Kadra. J'aimerais qu'on consacre le temps qui nous reste à vos questions, qui ne sont jamais bêtes. Seules les réponses sont intelligentes. Vous avez eu peur, hein? Donc allez, qui se lance? On y va. Très bien, merci. Allez, la première sera pour vous. On vous apporte un micro. Vous parlez dedans comme si vous mangiez une glace. Comme ça, on vous entend bien.
M'entendez-vous?
Oh, formidable.
Question à vous deux. Pour vous, écrire, c'est quoi?
Très bien, vous avez encore une ou deux heures devant vous.
Pour moi, première chose, pour moi, écrire, c'est rajouter de la vie au néant. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que je vais vous faire une confidence. Ce matin, dans le train Paris-Lausanne, j'ai fini mon nouveau livre. Ah, j'étais heureux parce que j'avais mis au monde un nouvel être, quoi. Voilà. J'ai rajouté un être vivant dans ce monde. Je le vis vraiment comme ça.
On peut encore rien dire du tout.
Non, parce que je ne sais pas en parler, je viens de l'écrire.
D'accord, très bien. Je n'ai rien dit.
Et dans 2 jours, je commence le baby blues. Mais voilà, je me disais ça en termes philosophiques, excusez le naturel reprend le dessus quand on est agrégé et docteur en philo. J'avais ajouté de l'être au néant. Voilà, j'avais lutté contre le néant, j'avais ajouté de l'être. Et puis écrire, deuxième chose pour moi, c'est abolir la distance entre l'autre et moi. J'écris vraiment pour ça. J'écris pour, et pour permettre au lecteur aussi d'abolir la distance entre lui et les autres. Je crois que la force de la littérature, c'est de créer de la proximité, c'est de créer de l'intimité avec des êtres qui peuvent être totalement différents de nous. Je crois que quand on rentre dans l'espace littéraire, on entre dans cet espace plastique et malléable où on pourrait être l'autre si. C'est ce que vient de faire Yasmina Kadra dans son dernier roman, en se mettant dans la tête d'un terroriste. Moi, je me suis mis dans la tête d'Adolf Hitler. Je peux me mettre dans la tête d'un enfant, etc. D'une femme. J'adore raconter le monde à travers la sensibilité et la chair d'une femme. Voilà, je veux dire, la plus belle agence de voyage qui existe sur Terre, c'est la littérature. Elle nous permet non seulement de voyager dans l'espace, mais dans le temps, dans le sexe. On peut changer de sexe, on peut changer d'âge. Voilà, la force de la littérature, c'est véritablement ça, abolir la distance entre soi et l'autre.
Yasmi.
Ouais, il a tout dit, Eric, vraiment.
Mais non, encore un petit quelque chose.
Voilà, on prend pour moi, écrire, c'est essayer de toucher le pouls de ce qui nous échappe. Ouais. C'est élargir davantage le domaine de notre vie. On est dans une bulle. Et le livre, ben, il ne fait qu'élargir l'univers qui est autour de nous. Et puis, ça nous permet d'aller vers les autres. Moi, j'écris parce que j'aime. J'aime partager, j'aime aller vers les autres, ben, faire partie de leur famille. La plus belle famille au monde, ce n'est pas celle où nous sommes nés, c'est celle qui nous entoure. Et je crois que la plus belle famille de toutes les familles, c'est la famille de l'écrivain avec ses lecteurs. Il n'y a qu'amour. Il n'y a qu'amour. Et ça, c'est merveilleux.
Une autre question pour nos invités. Je la mets aux enchères. Une fois.
Ils sont fatigués.
Ouais, très bien, on vous apporte le micro. Ça marche toujours, les enchères. Allez, alors un témoignage, allez-y, lâchez-vous.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour toute seule.
Non, je voulais juste dire, je voulais juste remercier les deux auteurs pour la beauté, la profondeur et...
Oui,
et la beauté, bien. La profondeur et le côté essentiel de leurs propos. Je trouve que c'était un moment magnifique. En plus, ils sont hyper chaleureux. Ils sont très touchants l'un et l'autre. Et puis, ouais, vraiment.
Merci la beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez en envoyer encore. Dès comme ça, on prend. Hein. Il y a une question quelque part? Ok, on vous écoute.
Je voudrais juste vous demander ce que vous avez à vous dire, tous les deux, là, maintenant, après cet entretien.
Ah, alors, une sorte de mot de conclusion adressé à l'autre. Ah oui, c'est une bonne idée. Vous êtes libre l'année prochaine pour venir modérer des rencontres
là? Ben moi, je lui dis bravo. C'est un être magnifique, voilà, c'est tout.
Ben, merci. Mais moi, je lui dis mon impatience de lire les nouveaux livres. Merci. Voilà, parce que je le lis toujours, toujours, toujours.
Bien, moi, je ne peux pas vous redonner la parole après ça, parce que franchement, voilà. Je vous rappelle, d'abord, on va commencer par le thème de la rencontre, les deux livres d'entretien. Plus tard, je serai un enfant, Eric Emmanuel Schmitt avec Catherine Lalanne. Le baiser et la morsure, Yasmina Kadra avec Catherine Lalanne. Ces livres sont sous la tente. Jetez-vous dessus, franchement, c'est formidable. Les nouveautés, Khalil, Yasmina Kadra chez Julliard. Ça se lit à toute bisure, et puis on n'a qu'une envie quand on en a fini, c'est de recommencer.
À toute quoi ?
Bisure. C'est un helvétisme, mon cher.
Ah oui, ça... Ah mais j'adore les expressions tropicales.
J'ai droit à un helvétisme de temps en temps.
J'adore les expressions tropicales.
Très bien. Madame Pilinska et le secret de Chopin, à lire dans la brousse, ou ailleurs, c'est chez Albin Michel. Franchement... Je vais pour une fois parler de moi. Je fais un métier absolument extraordinaire parce que les gens qui organisent ce festival me font une confiance incroyable. Ils me confient Eric Emmanuel Schmitt et Yasmina Kadra pendant une heure. J'en fais ce que je veux. Et j'essaie de vous en faire profiter. Franchement, d'avoir des invités comme ça, c'est un immense bonheur. Merci de les remercier, mais avec une tempête d'applaudissements.